12.
18h45, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Rhône. Il est temps de rejoindre la rédaction pour le grand invité du lundi.
Bonsoir, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Charles Minge, notre premier grand invité de la rentrée. Charles Minge, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Charles Minge, vous êtes aujourd'hui le peintre valaisan vivant le plus populaire et le mieux coté. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
Une lourde croix.
Mais encore.
Non, ça vous donne la modestie. Parce que jamais on pense à notre popularité. J'ai toujours été sincère avec soi-même, c'est ce qui compte.
Donc ça, on peut dire que ça ne vous est pas monté à la tête.
Absolument pas.
Alors Charles Minge, on va faire un grand retour en arrière. Vous voyez le jour à Granges le 16 avril 1920. Vous avez donc aujourd'hui 72 ans.
Exact.
Comment s'est passée votre enfance à Granges ?
Je suis né à Granges. Et j'ai encore la mémoire des lieux. C'est curieux. En plein centre du village de Granges, j'avais Magic Platane, tout. Et à 5 ans, on a quitté Granges. Voilà, Sierre.
Mais donc vous vous rappelez encore précisément...
Je me rappelle de l'allée du Platane. Une grande place des Platanes.
Et puis Sierre, ensuite ?
Sierre, je me rappelle aussi très bien. C'était une villa qui était tout près de l'asile Saint-Jean, l'asile de Vieux. Et j'ai resté 2-3 ans là parce qu'on est descendu sur Sion. Et j'ai fait toutes mes écoles enfantines à Sion, école primaire à Sion, tout.
Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de votre enfance ?
Il y en a plusieurs, c'est ça. Ben, je crois que c'est l'école avec les frères de Marie. C'était les frères de Marie qui donnaient, qui enseignaient au collège. C'est la première école primaire de Sion. Alors, on chantait en latin, on avait les offices de la semaine sainte, tout ça. On était vraiment en bonne forme.
Pour d'autres enfants, l'école, c'est un souvenir assez douloureux. Alors, pour vous, pas du tout.
Non, pas du tout. Il y a un seul problème, j'avais les mathématiques qui ne me plaisait pas du tout. Alors, je faisais tous les dessins pour les copains, puis ils faisaient des problèmes.
Voilà. À 16 ans, vous êtes à Genève, où vous fréquentez l'école des arts industriels, ouais, et l'école des beaux-arts. Ouais. Est-ce que votre décision a été prise depuis de nombreuses années, ou bien est-ce qu'il s'agissait là d'un coup de tête ?
Ah, c'est pas un coup de tête. J'étais très fort pour le dessin, tout. Et puis je dessinais, et puis alors mon père a dit, écoute Charlie, on va regarder en bas à Genève. Et puis en connaissant M. Aberjan, qui était directeur, alors il était noir, en lui montrant des dessins que je faisais, alors il a dit, il peut rentrer. Alors à 16 ans, je suis descendu là-bas.
Ça a été un grand changement entre le Valais et Genève.
C'est-à-dire que, probablement, je ne vivais pas la vie de Genève, je n'avais pas de sous pour sortir, j'ai une vie assez retirée, très retirée même. Je vivais sur une tante qui était demoiselle Favre, qui était retraitée du conservatoire, qui est professeur de piano. Alors, j'ai vécu là.
Et les cours qui étaient dispensés, c'était des cours intéressants, de bons cours.
Ah oui, les arts industriels, c'était formidable. Ça existe toujours. C'est au boulevard Georges Favon, côté de Cornavin. Il y avait des cours d'architecture qu'on n'a jamais eu à Sion. Il fallait les faire là-bas. Avec des foyers, points de fuite, des colonnes, des temples grecs. Il fallait le faire. Des cours de lettres. Il y avait... Des leçons de sculpture, l'histoire de l'art, il y avait vraiment une belle formation.
Ça vous a beaucoup apporté.
Ah oui, bonne formation, oui.
Est-ce que ces années de cours, ça a été une des périodes les plus heureuses de votre vie, malgré le fait que vous ne puissiez pas vraiment participer à la vie genevoise ?
Comme Valaisan, était sauvage. Mais on était 40-45 élèves aux arts industriels. Or, en été, par le champ, j'étais tout seul au bord du lac baigné. J'étais le seul qui travaillait. Le seul, plié en deux sur une table.
Donc vous étiez déjà un grand travailleur.
Ah oui, ça, et puis surtout que ma mère se sacrifiait pour me payer la pension. Alors j'avais quand même le souci de faire mon devoir.
Vous étiez comme tous les adolescents, le son, plein de projets, plein de rêves.
Pas du tout. C'est-à-dire que non, j'ai suivi la filière, je suis l'enseignement, tout, puis que j'étais très doué, pour ça j'étais content. C'est arrivé, ça suit son cours.
Est-ce que vous aviez un grand maître, comme on voit certaines fois, ou un grand peintre que vous admiriez, un autre qui vous a peut-être influencé ?
Ah, c'est ça. Le problème est là, vous avez vers un certain âge, tout dans les 20 ans où vous faites des découvertes. Je crois que c'est pour tout, même pour la musique, pour tout. Alors j'ai découvert Bruegel. Je ne connaissais pas Bruegel. Et j'ai vu une vitrine à Genève, croiterie là, et puis j'ai vu cette couverture Bruegel. Ça m'a touché, un contact, pour pas expliquer. Et c'est resté. C'est une découverte, une admiration pour quelqu'un.
Voilà, est-ce que vous avez essayé de l'imiter ou...
Oh, pas du tout. Pas du tout, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas imiter. Mais il y a autre chose, il y a de la poésie, il y a l'esprit, il y a des paysages de neige qui correspondaient avec... que j'ai fait aussi les paysages de neige. Il y a des correspondances, des affinités. Or ça, c'est infaillible.
Alors de Genève, ouais. Vous passez à Zurich, ça c'est en 1940. Vous travaillez alors comme graphiste pour la fabrique de cigarettes Memphis.
Exact.
Elle n'existe plus cette fabrique ?
C'était la région autrichienne des cigarettes. Et c'est arrivé, comme je ne sais pas comment c'est arrivé, qu'ils cherchaient un graphiste. Alors j'étais là, j'ai logé au Maximianeum, c'était un institut pour les étudiants valaisans qui allaient au poli. Et on avait chambre et logement là. Bon. Et là, j'ai collaboré avec le chef de la publicité. Il y avait un chef qui créait des maquettes, des objets, des choses, mais il était incapable de réaliser en couleur. Alors moi, il m'expliquait ce qu'il fallait faire, puis je réalisais ce que lui mettait sur papier.
Voilà. Mais est-ce que de votre côté, après, on vous a aussi demandé d'apporter des idées, de créer une affiche, des emballages ?
Ah, j'en ai fait, c'est sûr, j'en ai fait. J'en ai fait, mais j'ai dessiné beaucoup de cigarettes. Ça, après, j'ai fumé. J'ai fait 2 ans, là. Ça m'a mis en mieux dans le courant, mais on était peu payé. Il me donnait 7,270 francs par mois. Et puis quand j'ai quitté Zurich après 2 ans, il m'a dit, on ne vous donne pas les papiers, vous devez encore 30 francs. Bravo.
Pendant une longue période de votre vie, vous avez été un grand fumeur.
Hein. Mais non, pas du tout. J'ai essayé d'approfondir ce problème. Mais 20, 25 ans, je ne fumais pas, 30 ans non plus. Je ne sais pas vers quelle époque j'ai commencé à fumer. Je n'arrive pas à situer. Je ne buvais pas, je ne fumais rien. Je ne sais pas comment c'est venu.
Cigarette ou cigare ?
Cigarette.
Cigarette.
Et puis après, c'est d'arriver au cigare, je ne sais pas comment non plus. Ça vous tombe dessus, quoi.
Est-ce que vous sentiez déjà, au moment où vous travailliez comme graphiste, que ce métier ne serait que provisoire, qu'il y allait avoir autre chose ?
Eh bien, j'ai eu l'idée de faire peintre. Surtout pas ça. C'est tout faux de dire, je veux faire ci, je veux faire ça. Il y a comme une des étapes dans la vie. Puis petit à petit, vous arrivez tout près, sur le chemin. Et là-bas, à Zurich, je peignais, je vis des tableaux. Je vis des tableaux sur Sion, j'avais une nostalgie du pays, mal du pays, puis je vis des tableaux sur Sion. Et puis quand j'ai quitté Zurich, j'ai dit, maintenant, ça suffit. J'ai mis tous ces tableaux dans des grandes caisses, et je suis arrivé à Sion. Et j'ai exposé au casino.
C'était votre première exposition ?
Exactement. La première exposition de ma vie, c'est au casino.
En 44, sauf erreur.
C'était en 1944. Si je me trompe.
Et cette date est très importante pour vous ?
Ah, évidemment, j'ai vendu des tableaux, mais c'était cocasse, parce qu'il y avait un qui disait, oui, c'est pas mal, et c'est pas mal ce qu'il fait, mais il prenait rien.
Cette exposition, ça a été un peu le tournant, parce que elle a changé le cours de votre vie, c'est là que vous avez décidé d'être peintre.
C'est indiscutable. Le motif, en vendant ces tableaux, je me suis créé une liberté. J'ai pu retravailler et repeindre sans souci. Je payais ma pension et chambre à ma mère, qui avait une pension famille. Je me sentais libre, je pouvais retravailler. Et ça, c'est très important.
Ça a été un grand succès, public et critique. Les deux vous étaient favorables.
Ah oui, et les gens qui achetaient un tableau, ils n'achetaient pas pour moi. Ils achetaient parce que ça leur plaisait.
Parce qu'à l'époque, Charlemagne, peintre, ça ne disait pas grand-chose aux gens.
Non, vous étiez quand même on connu. Était très connus ici à Sion. Déjà à l'école, Charlie dessine formidable. Il y avait une certaine... Tous les copains d'école sont rappelés, les parents discutaient. Mais c'est arrivé, on ne sait pas comment.
Cette première exposition, les tableaux que vous présentiez, vous étiez bien loin de votre peinture actuelle, des tableaux qu'on vous connaît ?
Non. Non, il y avait la première exposition que j'ai faite, les premiers tableaux que je faisais, il y avait déjà l'embryon de ce que je faisais plus tard. J'étais peint dans les vignes déjà à l'époque, mais je n'avais pas la technique, là, vous voyez. Alors j'allais dans les vignes, et puis des fois j'étais curé, parce qu'il y avait le métral qui lisait la Suisse. vautrer sur le terrain, et puis les femmes, ne saviez-en, qui travaillaient. Et ça, j'ai encore des croquis de ça. C'était des croquis. J'avais l'idée déjà d'aller puiser dans ces sources-là.
Les sources étaient les mêmes, mais la peinture, la technique, donc, elle a évolué,
évolué
a
mûri.
Au fur et à mesure.
Oui, il a fallu un équilibre, la couleur, les formes, tout.
Qu'est-ce qui a représenté le plus de difficultés pour vous? Qu'est-ce qui vous a posé le plus de
problèmes? La difficulté, c'est qu'à chaque tableau, on a la trouille de commencer un tableau, parce qu'on n'est jamais sûr de réussir. Jamais. Il n'y a aucune garantie.
Même encore maintenant,
je commence un tableau, je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'il donnera, si c'est formidable ou quoi, je ne peux pas dire. Mais on essaye toujours de se dépasser, de faire mieux. Alors on s'encourage personnellement.
Il y a eu d'autres activités aussi pendant ces périodes-là, et notamment des décorations murales et des illustrations de livres. Peut-être les décorations murales pour commencer. Il y a des particuliers qui venaient vers vous et qui demandaient « j'aimerais avoir un dessin sur le mur de ma villa ».
Oui, il y a eu deux, trois clients qui demandaient des carnots, tu sais. Puis j'allais faire, je disais pas non, 250 francs, enfin, qu'un autre, c'est des grandes villes bricoles. Mais après, j'ai pas fait des grandes décorations.
Ça a été toujours des petites œuvres en taille.
Des petites choses. J'en ai fait pour Philippe Pigny, Place Rizier, j'en ai fait des bricoles, quoi, mais c'était des petites décorations.
On peut encore voir ces œuvres aujourd'hui, elles existent toujours.
Il y en a une à Place Rizier. Et puis les propriétaires s'arrachent les cheveux. Parce qu'il ne peut plus l'enlever. Elle est peinte sur le mur. On ne peut plus l'enlever.
D'accord. Alors, les livres, maintenant, vous en avez illustré plusieurs?
Oui, j'ai eu plusieurs fois. J'ai illustré, par exemple, les contes de Noël de la chambre à Michelet, si je me trompe. J'ai eu le livre lecture de Moïse Zermatt à l'époque.
Ça, c'est le plus célèbre, ce livre de lecture à l'usage des classes primaires.
Oui, il y a eu deux éditions. La deuxième, revue et améliorée. Oui, mais j'ai mon plaisir de faire ça.
La première, ça vous a demandé beaucoup d'heures de travail?
C'est-à-dire qu'il fallait réaliser ce qui fait correspondant avec les textes. Et puis il ne faut pas que ce soit trop banal, il faut quand même trouver quelque chose.
Est-ce que ça vous a aussi fait un peu connaître, un peu plus encore?
Oui, ça évidemment. Charlemagne a toutes les écoles, mais ça, on ne réalise même pas cette publicité, on ne pense même pas à ça.
Les années qui ont suivi, est-ce qu'elles ont été difficiles ou bien alors, j'allais dire, le succès s'est confirmé petit à petit?
Ah, j'étais toujours de plus en plus fort. Après, il y avait d'autres pales qui me poussaient la gueule. C'est la seule concurrence qui venait.
Des gens qui étaient vos amis au départ?
Oh, j'ai jamais eu... Des amis sincères sont rares, vous savez. Quand c'est les doigts de la main, c'est les doigts d'une main, les amis sincères. Mais j'ai toujours peint pour moi-même. Je ne suis pas occupé de rien, de personne, et puis j'ai travaillé intérieurement pour soi-même.
Une autre date qui est importante, c'est 1964, ça je pense vous en souvenez, non? Alors là, lorsque votre femme va entendre ça, elle va être un peu surprise, c'est l'année de votre mariage. Une grosse erreur.
C'est
là.
Très juste.
En 64, vous épousez Rosemary Wenger.
Oui, c'est juste, Rosemary Wenger, qui faisait un peu de peinture.
Alors, il y aura ensuite l'avenue au monde du premier de vos trois enfants. C'est aussi une date importante. C'était une étape importante, mais vraiment très importante.
Une année après, régulier.
Qu'est-ce que ça représentait pour vous,
alors,
ce premier enfant? C'était vraiment quelque chose de très important.
C'était un coup d'assommoir, un événement, un drame.
Un drame?
Ah oui, c'était quelque chose qui me tombait dessus, je ne sais pas comment. Hein.
Un drame dans quel sens?
J'ai senti que la liberté m'échappait. Puis il y avait dehors, et puis sur le moment, on a un peu des angoisses, mais après, plus j'avais d'enfants, plus je vendais de tableaux. Et ça, je peux l'affirmer.
Donc malgré tout, c'est bien passé.
Il y avait au point de vue matériel, l'enfant n'était plus une charge pour moi, au contraire, je vendais très bien les tableaux. On ne sait pas pourquoi, une providence.
Puis il y a un enrichissement dans ce contact avec les enfants.
Évidemment, quand on se levait trois fois la nuit, c'était formidable. Mais on ne regrette rien. Hein.
D'accord, on ne savait pas comment prendre celle-là.
Hey, c'est le macaracrisien.
Est-ce que la foi joue un rôle important dans votre vie?
Ah, puis comment? Il n'y a que ça de vrai.
Vous êtes quelqu'un de très croyant.
Ah, ça c'est... Je ne cache pas. Sans foi, en fait, rien du tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'admiration, plus rien, on est mort sans foi. et la foi, c'est l'avenir.
Est-ce qu'il y a, il y aura une fois où il y a déjà eu la foi qui est intervenue dans vos œuvres directement?
Alors que oui, j'ai fait des œuvres religieuses, mais pour moi-même, vous voyez. J'ai tout caché ça d'une valise. J'ai fait des crucifixions, j'ai fait des choses religieuses et... Qu'est-ce que par conviction personnelle?
C'est quelque chose que vous allez exposer un jour?
Ah, quand je serai mort, ils exposeront, mais moi de mon vivant, je ne veux pas du tout montrer mon intérieur.
Vous êtes quelqu'un d'assez secret.
Oui, oui, j'ai fait des agonies du Christ dans le Jardin des Oliviers. J'ai fait des tableaux métaphysiques avec la Terre, l'univers. Je montre alors. Vous voyez? La Terre qui est perdue dans l'univers, c'est des idées, quoi.
C'est par pudeur que...
Métaphysique, ça je me gêne pas de montrer alors.
Mais pour les autres, c'est de la pudeur.
Ça, c'est conviction personnelle. Si les autres, métaphysique, la Terre, tout, eh bien alors je montre volontiers.
Comment est-ce que vous en êtes arrivé au célèbre petit personnage que l'on trouve sur vos tableaux?
C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver des grands personnages, alors j'ai trouvé beaucoup des petits.
Plaisanterie mise à part, il y a eu une longue évolution, un long chemin.
Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors j'ai fait une décoration pour l'Opave, avec 10 mètres, les panneaux ont 10 mètres, un de 5 mètres, 10 mètres, et 2 mètres 50 et 10 mètres. Mais j'ai voulu exprimer, ça ils m'ont demandé d'exprimer un peu de la vie valaisanne. Alors j'ai fait des panneaux avec le printemps, dans les villes, les femmes en fleurs, comme je dis, des travaux de printemps. Ils m'ont demandé d'exprimer ça, d'après exprimer de l'automne. Et puis après ils m'ont dit, écoutez, il faudrait faire des costumes, une kermesse, la musique, quelque chose qui danse, quelque chose d'heureux. Alors c'est arrivé comme ça, j'étais pris là-dedans. Et il y a un tableau que j'avais fait tout au début, c'est la fête des costumes. J'avais été à Champéry. On a fait des costumes invités par Joseph Gaspeau, qui était président des costumes, je fais des choses, des costumes valaisans. J'ai fait un magnifique tableau là, ça dansait, il y a eu la joie.
Mais là vos personnages étaient plus grands.
Non, ils étaient petits.
Ah, ils étaient déjà petits.
Ah oui, ils sont plus grands parce que les panneaux sont grands, mais c'est un petit format, vous allez faire des petits formats. Mais j'aime la population, j'aime le peuple, les gens, la société, j'aime ça. Bon. Je suis très social. Et je... Quand à la télévision, je cause tout seul, j'ai colère quand je vois des saloperies.
Vos sources d'inspiration, donc, on les connaît, c'est la nature d'une part, et puis les scènes de la vie quotidienne, les travaux des vignes notamment qui ont...
Les travaux de vignes, c'est en somme l'élément, vous voyez, vous allez en Russie, Pologne, dans tous les pays du monde, la terre est éternelle. Vous allez en Roumanie, en Hongrie, où les Polonaises, ils ont des foulards comme ici à Savièse, on est étonné. Il y a des kermesses, des tziganes, tout ça, qui dansent, tout. Ici, on a des kermesses aussi qui dansent, tout. Ça se retrouve, il y a une unité. Dans le monde, il y a une unité de l'âme humaine.
Alors finalement, Charles Minge pourrait exposer ses toiles n'importe où dans le monde. Les gens se retrouveraient dans ses tableaux.
Oui. J'avais fait des tableaux des rémances. Et des femmes qui coupaient le blé à la faucille encore. J'ai fait une décoration en Manche. En 1950 ou 52. J'ai fait des tableaux de ces femmes qui coupaient le blé à la faucille.
Est-ce que vous ne décrivez pas malgré tout un monde qui est un petit peu révolu? C'est un monde qui est en train de disparaître.
C'est un monde qui est en train de s'anéantir, je vous fais remarquer. Pas des vraies valeurs, le monde actuel n'a aucune valeur. Il n'a aucun sens des valeurs, au contraire, il détruit des valeurs.
C'est un monde que vous regrettez, celui que vous peignez dans votre
tableau? Non, absolument pas. Il y a une évolution. Le monde que j'ai vécu il y a peut-être 40 ans, 50 ans, attention, c'est encore du monde sclérosé. Je ne veux pas aller trop loin dans la discussion, mais il y avait des choses inimaginables qui se passaient, de l'injustice et tout. Il y a une évolution qui s'est faite. C'est indiscutable. Et je ne sais pas jusqu'où ça ira. La protection des ouvriers... des abus, des profits, c'est incroyable ce que j'ai vu. Mais il y a une évolution qui s'est faite.
Donc il y a quand même du positif dans l'époque.
Indiscutable. Vous voyez, le social, indiscutable.
Vous sentez un homme, j'allais dire, un homme de gauche?
Non, ah non, non. Ah non, moi je suis pas du tout...
Sans faire de politique.
Non, pas politique, mais j'ai toujours fait des tableaux, même contre le communisme. J'ai lu beaucoup de livres, je suis renseigné. J'ai lu, par exemple, la vie de Staline, un tas de choses historiques, j'adore l'histoire. Mais on n'est pas dupes. Moi, je suis pas tout de gauche, je suis social. J'ai pas du tout de conviction d'un groupe politique. Vous voyez ? Mais je considère que l'individu doit être aidé, protégé et tout ça, c'est discutable.
Revenons-en peut-être, si vous voulez bien, à la technique. Pour l'essentiel, vous faites des huiles.
J'ai fait de l'huile, mais beaucoup de gouache.
Beaucoup de gouache ?
Gouache, ça semble la tempéra. Ça semble la peinture à l'eau. Vous voyez ?
Un peu d'aquarelle aussi ?
Non, trop petit j'ai fait. Mais j'ai horreur, moi, d'être esclave du technique. Si vous commencez à... Vous faites un ciel, et puis vous devez isoler le nuage, ça ne plaît pas. Vous devez être libre. Alors, par exemple, oui, Chagall, Utrillo, puis tous les peintres, ils ont peint à la gouache, à tempéra. C'est une technique formidable. On réalise immédiatement ce que l'on veut.
À part les techniques que l'on vient d'évoquer, il y en a d'autres que vous utilisez occasionnellement ?
Oh, j'ai fait de la gravure sur bois. J'ai fait de la lithographie aussi. J'ai un premier prix d'lithographie à Genève, aux Beaux-Arts Genève. C'est des lithographies, c'est des dessins à pierre, c'est passionnant.
En général, lorsqu'il y a des lithos de Minges, c'est vous qui les réalisez ?
C'est
vous-même ?
Vous n'arrivez plus. Techniquement, on ne peut plus. Si vous les réalisez vous-même, vous n'arrivez plus, ça demande trop de temps. Alors, vous avez les originaux, et puis vous avez le dessinateur professionnel qui reprend, vous voyez. Par exemple, Picasso, il dessinait l'original sur un calque, et il reportait ça sur la pierre. Mais il n'est contrôlé tout quand même, vous voyez. Vous pouvez plus, vous n'arrivez plus, vous pouvez technique de suivre.
Quel a été le plus grand bonheur de votre carrière professionnelle ?
Eh bien, le plus grand bonheur, c'est d'avoir un tableau réussi. J'en ai mis de côté quelques-uns. Quand je les regarde, je suis heureux.
Vous en pensez à quelques-uns de précis, donc ?
Oui, j'ai quelques-uns de précis.
Qui sont chez vous, toujours ?
Oui. Alors ça me rend heureux. J'en ai un de Noès. Une tempéra de Noès. Et quand je suis revenu d'un voyage dans le midi de la France, j'ai retrouvé le midi ici, j'ai fait un tableau, j'ai dit, c'est formidable. Heureux ? Comment c'est sorti, je ne sais pas.
Un autre encore ?
Un autre, c'est ici, Valère. Valère Tourbillon, depuis Salins. C'est très provençal, Avignon. On se croirait en Provence. Alors, j'ai retrouvé. Mais après, ça part.
Vous sentez du midi, en quelque part ?
Pardon ?
Vous sentez un peu un homme du midi de...
Ah, moi, je suis méridional. C'est la Provence. C'est la beauté du monde. Hein.
Donc, à part le Valais, si vous voulez vivre en quelque part, ça serait...
Le Valais, c'est l'Espagne. C'est un pays de peintres. Je ne sais pas où je peux aller peindre. Qu'en Suisse, qu'en Valais. La Suisse n'est pas picturale. Le Valais est pictural.
Est-ce qu'il y a certaines fois un petit pincement au cœur lorsque l'on vend son tableau, lorsqu'on doit se séparer de son tableau ?
Avant, je vendais volontiers avec plaisir, puis maintenant je pousse la gueule. J'en veux presque aux gens qui m'achètent un tableau. J'aimerais tous les garder. Parce que c'est exigeant. Vous dites, chaque fois, vous donnez de plus en plus de données de vous, et puis c'est quelque chose de vous qui part. Plus vous donnez, plus vous avez colère. De vendre. C'est logique. D'ailleurs, ça ne fait rien de produire, puis ça part. Mais moi, je ne peins pas pour produire.
Il y a de nombreuses heures de travail.
Ça, c'est très difficile. Mais moi, je travaille assez rapide. Le ton que je mets, je ne change plus.
Est-ce que c'est un travail douloureux, vous,
non,
de gestation, de création, ou bien pour vous au contraire
Non, il y a un peu une euphorie, un monstre plaisir, en somme, c'est un peu une bagarre. On doit lutter pour arriver à quelque chose et puis on veut gagner. C'est les grands tableaux, c'est important.
Aujourd'hui, Charles Minges, vous avez 72 ans, est-ce que c'est beaucoup plus facile pour vous de peindre ? Ou est-ce qu'il y a encore...
Je travaille, je peins, mais je suis un petit peu contrarié parce qu'il y a des idées métaphysiques, on avance dans la vie, vous voyez, puis on arrive, on verra à un moment donné que c'est fini. C'est inéluctable. Alors il y a des choses qui me chicanent un peu quand même, hein. Mais je referai des tableaux en pensant refaire mieux ce que j'ai toujours fait.
C'est un travail quotidien, vous astreignez tous
non,
les jours à
impossible.
Peindre
impossible.
Non ?
C'est impossible quotidiennement. C'est assez par à-coup. Tempérament nerveux, sensitif. Alors, c'est impossible de travailler régulièrement. Moi, fonctionnaire.
Lorsque l'on a de belles journées, comme on l'a eu durant tout cet été, vous prenez votre chevalet, vous sortez ?
Ah oui. Mais le difficile, c'est de trouver le sujet formidable. Il faut beaucoup chercher, c'est un peu comme un chasseur, l'artiste. Il doit chercher, regarder, et puis quand on a trouvé un coin, alors on est heureux, c'est formidable. Puis on revient.
Est-ce que vous travaillez directement avec, j'allais dire, tous vos instruments, ou bien est-ce qu'il s'agit simplement de petits croquis?
Ah non, 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 si j'ai fait un croquis, je fais des croquis. Je vais promener la nature pour voir des endroits. Je fais des croquis, noir et blanc, dessin, pour voir ce que ça donne, puis après je reviens pour la couleur.
Ah d'accord, c'est pas en atelier plus tard.
Il faut choisir les lieux.
Plus aussi?
Rien. Il n'y a pas d'amitié. Je fais partie de la société LAVA, Association Valaisanne des Artistes. J'étais au groupement des débuts à l'hôtel de la gare, à Sion. La fondation des sociétés. Il y avait un paquet d'artistes, hein, tout. Hein. Alors, il y a un comité qui était en haut, qui était des copains, ils sont restés en place. Et, bon, j'ai rien dit. Mais après, il y avait des concours d'affiches, 14 expositions. Alors, il y a les concours, c'était toujours le même qui avait l'affiche. J'ai commencé à douter. Après, il y a une grande exposition aux arts et métiers des artistes. C'était convenu, 3 tableaux, format moyen. Bon, moi j'ai joué le jeu, et bien il y en avait qui sont arrivés avec 5, 6, des bons formats, puis les meilleures places. Alors moi j'ai dit, ben c'est fini, je veux pas être dupe, je marche plus. Alors moi je suis camarade, mais alors sincère, j'aime pas la tricherie.
Quel regard vous portez aujourd'hui sur les jeunes artistes, les jeunes peintres valaisans ou autres? Est-ce que vous avez de la sympathie pour certains, voire de l'admiration?
Ah, moi en tout cas, ça, je me dis, c'est très délicat comme question. Moi, je pars du principe, un pour soi, puis Dieu pour tous. Non, c'est impossible de disperser. S'il faut aller voir une exposition avec 15 tableaux peints en noir, vous comprenez, moi je marche pas. Je suis pas dupe. Donc, alors qu'il fasse ce qu'il veut, ça m'est égal.
En quelque part, on peut dire que vous êtes un petit peu allergique à la peinture contemporaine.
C'est pas la peinture. C'est la rigolade. Ils n'ont pas de métier, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'imagination. Baudelaire a dit, l'imagination, c'est la reine des facultés. Il n'y a pas d'imagination, il n'y a rien. Moi, je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller quand j'ai pas faim, ça ne me dit rien.
Est-ce qu'il y a des jeunes artistes qui viennent vers vous demander des conseils?
Non. Non, 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 non. Jamais eu quoi que ce soit. Non,
vous le regrettez en quelque part?
On est tous autodidactes.
Mais vous ne regrettez pas de ne pas avoir, par exemple, un fils spirituel?
Bon, pas, absolument pas. Oh non, 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 surtout pas ça. Surtout pas ça, hein. Mais vous voyez, chaque individu, maintenant, il est autodidacte. Il fait ce qu'il veut. Moi, j'en connais. Je ne veux pas critiquer personne, mais chacun fait ce qu'il veut. Étant donné que tout le monde est artiste. Donc maintenant, il n'y a que des génies, vous comprenez? Que moi, ça me suffit, j'ai un talent.
D'accord.
Je mets déjà en valeur le talent, c'est déjà pas mal.
Donc on vient de le voir, vous avez beaucoup d'humour, c'est quelque chose qui aide à vivre.
Ça, l'humour. C'est une merveille, l'humour. Si on peut rire, on est sauvé. Un bon verre de vin, puis un bon rire, puis des bons vitres, c'est fantastique.
Les autres arts, est-ce que vous auriez aimé écrire, faire de la sculpture,
j'écris
de la musique?
J'écris un petit peu.
Vous écrivez un peu?
J'écris un petit peu des pensées, des histoires, me semble, des moments de révolte. Mais après, j'ai envie de tout détruire. Hein.
Mais ça vous démange pas, par exemple? Vous ne le dites pas un jour, ah, j'aurais vraiment aimé jouer du violon ou que
si,
sais-je?
La musique.
La musique.
J'adore la musique. Et j'aurais aimé jouer du piano pour réaliser des pensées en musique. J'admire ceux qui jouent le même accordéon. Ceux qui jouent un magnifique tango en accordéon, moi, j'ai l'arme à l'œil. C'est marrant, j'adore la musique.
Toutes les musiques? Ou presque toutes?
Du Bartok. Bartok, je trouve formidable. Mais alors d'autres, faut pas charrier, hein. Il faut pas prendre les gens pour des gnognos, hein.
Les musiques folkloriques aussi, les différents
aussi,
endroits.
Mais c'est sûr. Il y a des musiques folkloriques de Tziganes, par exemple, de Roumanie, là-bas, mais c'est des merveilles. Liszt, les grands Liszt. Il a pris dans les Tziganes beaucoup de compositions. Attention, Chopin, il a fait des berceuses. Sa mère chantait quand il était bébé. Et puis il a repris des chants de berceuses, il a fait des chefs-d'œuvre avec. C'était transposé. D'une chose populaire, c'est venu transposer, c'est venu chef-d'œuvre. Mais ça passait chez M. Chopin.
Charlemagne, je crois, sans trop me tromper, je crois que vous êtes collectionneur.
Ah là, là, votre, Attention, vous êtes curieux, hein.
Est-ce bien vrai?
Je collectionne.
Pas vraiment?
J'adore les vieilles choses, les vieux meubles. Une table à noyer, ben ça me touche. On touche la table, on la palpe, c'est beau.
Tout ce qui est vieux ou bien ça se concentre sur quelque chose de précis?
Non, des vieilles sculptures. C'est des choses qui ont une histoire. Vous avez des sculptures avec le Christ, ils sont noircis. Il y a eu des générations qui ont brûlé un cierge devant ce Christ. Il est noirci par les bougies. Alors, c'est quelque chose, une histoire, vous voyez?
Vous habitez depuis combien d'années maintenant à Montorgue?
Oh, moi, j'ai acheté là-haut en 1957.
C'est un privilège d'habiter Montorgue.
C'est-à-dire que j'ai passé pour un fou quand j'ai acheté ça. Il n'y avait rien. Rien du tout. Une petite baraque de 8 mètres sur 8. Maison de Vignon, c'est tout.
Voilà, ça c'était à l'époque, mais maintenant on considère ça comme un privilège de pouvoir habiter ça.
Oui, pensez-vous, on domine.
Est-ce que vous savourez ce temps de la vieillesse maintenant, ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un qui regrette vraiment beaucoup votre jeunesse?
Oh, moi je regrette rien. Si c'est à recommencer, je suis la même évolution que je suis, il n'y a rien modifié. Je ne sais pas ce qui m'arrive par derrière, par devant, ce qui m'arrive encore, mais je regrette rien du tout ce qui a été fait. J'ai eu des bons moments dans la vie, pour tout le monde. Et puis, mais ça passe. On a eu des moments tragiques aussi, et puis des moments heureux. Alors pour tout le monde, c'est le même problème. Hein.
Vous avez évoqué déjà encore tout à l'heure ce temps qui passe, et puis oui. la fin qui va ça arriver une fois ou l'autre. Est-ce que ça vous angoisse, la perspective de la mort?
Un peu, oui. Ah oui, j'ai le moment de... Je suis épouvanté de voir comme le temps passe vite. On est à la fin de l'été. On commence l'automne, et je ne sais pas comment passer l'été. Il y a une rapidité du temps, je ne sais pas comment expliquer ça. Brice Hermat, il me l'a dit aussi. Le temps passe toujours plus vite. Les saisons, dans 6 mois, on est Noël. C'est pas possible.
Mais la foi, ça aide dans ces circonstances?
Ah, c'est la seule chose. Il y a trois choses qui restent dans la vie, comme saint Paul l'a dit. La foi, l'espérance, la charité. Le reste, il n'y a rien, c'est du néant. Du néant. Et celui qui est un peu philosophe, qui est poète, la foi, ça aide beaucoup à vivre. Hein. C'est indiscutable. Mais c'est, on ne peut pas accuser ça, on ne sait pas pourquoi. Hein. Il y en a qui ont la foi, puis d'autres, ils ne l'ont pas. Je connais des personnes honnêtes, intègres, sympathiques, tout, mais qui n'ont pas la foi. On ne sait pas pourquoi expliquer ça. Un mystère.
À 72 ans, est-ce que vous êtes... vous avez dit vous ne regrettez rien, vous êtes tout à fait satisfait, mais est-ce qu'il y a encore... un rêve que vous aimeriez réaliser?
Faire des tableaux que je me dépassais dans des tableaux. Ça, j'aimerais. J'ai un tableau que je suis vraiment enchanté, heureux. J'ai fait une grande composition sur Ivan Terrible. C'est un grand tableau, il a 1m60 sur 1m20, 1m80. Donc là, je suis heureux, mais je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai réalisé quelque chose qui me tenait à cœur. Et quand vous avez la réalisation technique de votre pensée, ça c'est un monstre plaisir. Pas des fois on est trahi, c'est pas du tout ce que vous avez voulu faire.
Qu'est-ce que vous aimeriez laisser pour la postérité, Charles Minge?
Et moi j'ai pas de prétention de... Vraiment là vous me prenez le coup, hein.
Est-ce qu'il y a, si on devait retenir de Charles Minge, j'allais dire que quelques tableaux, ou bien vous préférez qu'on retienne plutôt Charles Minge, l'homme, ou bien, je ne sais pas, moi, l'humoriste, pourquoi pas?
Non, je passe plutôt pour un sale caractère. On m'a dit, ma femme m'a dit, on vous félicite, Madame Minge, parce qu'un sale caractère comme ça, on n'en trouve pas beaucoup.
Vous êtes
courageux de vivre comme ça avec ce guerre-là. Je passe pour un sale caractère.
Mais vous passez ou vous avez effectivement un sale caractère?
Je ne sais pas quoi, c'est parce que je suis un sale caractère. Des fois, je suis un petit peu angoissé de combien je peux, je cause des fois peu. Puis après, des fois, je suis exubérant, je discute. On a beaucoup des hauts et des bas, l'artiste.
Mais vous n'êtes pas quelqu'un de colérique, d'emporté ou...
Oh,
quand même,
je suis violent.
Vous avez des colères violentes?
Non, je ne peux pas dire des colères, mais ce moment, je saute. Puis après, c'est fini.
Mais vous avez des mots qui font mal parfois justement dans ces états-là?
Des fois on blesse les gens sans vouloir. Hein. Mais des mots, c'est terrible l'emportement. Hein. Mais c'est un tempérament impulsif.
Oui, mais ça n'est quand même pas au point.
C'est jamais. Ça, c'est uniquement une enveloppe extérieure. C'est pas intérieurement, ça vient pas du cœur. C'est des colères épidermique.
Et c'est très passager.
Rapide, très rapide.
Voilà, donc on peut quand même pas dire que votre femme a gagné le paradis rien qu'en vivant avec vous, non?
Non, ça peut exagérer. Hein.
Quand même.
Parce qu'elle serait pas restée avec moi. Hein, ça. Non, là, il faut... Puis, trois garçons, je suis content. C'est... Ça va. Mais... Qu'elle n'a rien sans rien. Hein.
Une toute dernière question, peut-être, pour conclure, Charles Minge. S'il y avait un tableau encore à réaliser, pour vous, lequel serait-il? Qu'est-ce qui vous tiendrait particulièrement?
Eh bien, refaire un tableau de jeunesse. Les premiers moments heureux des émois de pas dans les îles. J'ai connu les îles de Sion avant le champ d'aviation. C'était un peu comme l'île de France, c'était beau. La nature, tout ça. Maintenant, tout est industrialisé, il y a un hall de tennis, il y a des rouleaux de camping, il y a des chemins balisés, il y a des barrières, il n'y a plus rien. C'est fini.
C'est le
Et
sauvage.
Ça, c'est des souvenirs qui me resteront toujours.
C'est
les premiers tableaux.
C'est le côté sauvage de la nature qui vous attire.
Oui, les premiers tableaux, une poésie, douceur de vivre. Les premiers tableaux de la nature, c'est les plus beaux moments de la vie. Indiscutable.
Charles Minge, je vous remercie. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.